Moi, je suis en train de vous dire au Cap Oriental. J'ai repris totalement cette
histoire. Moi, j'ai essayé de vous combattre au Cap-Oriental. Je pense qu'en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange citoyen d'un parole aux auditeurs. Au nom de Kibou, tout comme ailleurs en RDC, les relations de méfiance entre certaines communautés est très fréquentes. Au regard de cette situation, certains observateurs plaident souvent à vide pour l'organisation urgente d'un dialogue social pour tenter de renouer la confiance entre les communautés. Des cas de difficiles cohabitations sont souvent signalés dans l'ancienne province du Katanga démembré, le de Kassa et l'Équateur aussi dans certains territoires du Sud Kivu. Selon vous, que faut-il faire pour concrétiser un dialogue social permanent entre les communautés en RDC? Rejoignez-nous au 081-890-6315 pour intervenir en direct dans cette émission, mais vous pouvez également le faire sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. Héritier Sidiakala est à la mise en œuvre de cette émission réalisée et coordonnée par J.R. Mugembo. Julie Feza assure la gestion du standard. Jérôme Lamiji vous la présente sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiotapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Il arrive que des communautés connaissent une cohabitation difficile à travers les pays, des conflits fonciers, des conflits de gestion de pouvoir coutumier, et des fois des conflits sur le partage des ressources naturelles qui dégénèrent des fois un affrontement. Alors comment arriver à prévenir et gérer les conflits entre les communautés en RDC? Certains observateurs estiment que tout cela doit passer par un dialogue social permanent entre les communautés. C'est la question au centre de nos échange dans cette émission. Plusieurs messages et les débats sont déjà très engagés sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. En attendant, vous qui êtes avec nous en FM, en direct au téléphone, nous avons Alain Bolodio, par exemple, de Kinshasa, qui dit ceci. Cette réalité rétrograde met en exergue la nécessité de la création d'une État-nation. Il ne faudrait pas perdre de vue que la République démocratique du Congo est issue de la décolonisation. Il aurait fallu que nous travaillions pour que les peuplades qui constituent l'État aujourd'hui c'est mieux en nation, c'est-à-dire une volonté de vivre ensemble. Il convient de signaler que la nation trouve son origine dans un sentiment attaché aux vibres les plus intimes de notre être, un sentiment qui nous unit dans la volonté de vivre ensemble. Sans doute, les éléments déterminants sont divers, la langue, la religion, l'habitat, l'histoire, l'origine. Quelle que soit leur influence, nous devons savoir que la nation relève plus de l'esprit que de la chair. Ça, c'est Alain de Kinshasa. John Kamango dit ceci. Pour y arriver, la cause doit être recherchée, anéantie et procéder à une sensibilisation consciente pour obtenir l'attention de tous en vue de baliser les chemins, les socles d'une réussite d'avance, d'une cohabitation dans un dialogue plus de finitif. Il y a Alexis Lukwela qui dit ceci, tout ça émane de la faim exponentielle du non, la non-accessibilité à l'emploi, la rémunération, le manque d'esprit d'amour du prochain qui caractérise les pays d'une manière générale, c'est la cause des divisions entre deux personnes. Nous avons par exemple Maître Trésor Likonzali Kinshasa qui dit ceci, cette situation étant la résultante du théâtre populaire auquel se livrent des acteurs politiques du pays, il faut que ces derniers arrivent à trouver des solutions appropriées à leurs différends en vue de permettre aux populations locales de reprendre leurs anciennes habitudes dans un esprit de tolérance. Fabien Ngandi Kambizi, qui nous écrit des calémies, dit ceci, nous disons sans froid aux lèvres que la plupart des conflits que nous enregistrons dans notre pays sont entraînés par des manipulations politiciennes, dont les Tanganyika, par exemple, ont assisté à des conflits comme ça entre deux peuples. Alors souvent, ce sont des conflits qui détruisent des relations humaines, qui conduisent à des bagarres. Mais quand vous allez plus loin, vous trouverez que la plupart des populations sont manipulées par leurs leaders, et c'est ce qui engendre toutes ces grandes difficultés. Antoine Roger Mbouimamba, qui nous a écrit de New York aux États-Unis d'Amérique, dit ceci, j'estime que le dialogue social pour la cohabitation harmonieuse entre des communautés est très important. Cependant, il essaie de se poser des questions quant à l'origine des tensions qui sont récurrentes. Jean de Dieu Mamburiko de Kisangani. Les autorités étatiques doivent éviter d'octroyer des grandes concessions, par exemple, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour l'élevage. Des fois, les gens se sentent frustrés quand ils ne se retrouvent pas dans la redistribution des ressources et des concessions. Clovis Kalolo d'Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental. Je pense, à mon avis, qu'il faut partager équitablement des ressources naturelles entre les communautés et établir l'autorité coutumière légitime, car aujourd'hui, les conflits fonciers divisent actuellement les communautés partout à travers le pays et surtout qu'elles se font passer pour des propriétaires fonciers. La situation sera toujours cruciale si jamais il n'y a pas une redistribution équitable de ressources. Nous avons en direct, bien sûr, au téléphone, quelques personnes qui se sont jointes à nous dans cet échange. Félicien Tissier, Kinshasa, Bitimo, Abukabu. Félicien, vous êtes avec nous. Bonjour Félicien et bienvenue.
Bonjour Pierrot. Je dois dire, comme l'on dit, c'est un des nos amis, des nos compatriotes, que le problème est beaucoup plus politique. Et nous avons 400 tribus dans ce pays, et si toutes ces tribus doivent se battre, se quereller tous les jours, et nous ne saurons pas vivre dans ce pays. Et cette histoire est beaucoup alimentée par la manipulation politique, parce que les hommes politiques, quand ils disent « Ah non, nous, on ne nous a pas fait ceci, nous, on n'a pas donné, nous, on a notre quota », c'est pas pour l'intérêt de la population, c'est lui. Le quota, là, c'est lui qui veut l'avoir, mais il utilise le nom du peuple. Et quand ils tiennent des discours comme ça, « Nous, on ne nous a pas donné ceci, nous, on n'a pas eu ceci », et le peuple manipulé suit ce mouvement-là, et c'est ce qui fait que nous puissions avoir des situations comme ça. Quand vous voyez l'exemple de la Deuxième République, on avait rarement des problèmes comme ça, c'est parce qu'au niveau de la politique, on avait instauré le système de cultiver l'unité nationale. Et c'est ça qu'on devait avoir, qu'on ne devait pas laisser tomber. Or, aujourd'hui, nous constatons que tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait des divisions partout. On privilégie le tribalisme. Quand vous entrez dans le tribalisme, et quand vous commencez au niveau de la nation, vous descendez au niveau des provinces, et du niveau des provinces, vous descendez au niveau du territoire, et ainsi de suite, jusqu'au niveau des secteurs, et ça sera au niveau des familles et des villages. Et c'est ça qu'il faut, qu'il faut pas accepter, et c'est ça qu'il faut combattre. Et nous devons, les hommes politiques doivent insister sur ces points-là. Je pense que l'unité nationale, même si tout ce que Mobutu a fait est mauvais, mais l'unité nationale devait être gardée et nous devions continuer sur cette lancée. Mm-hmm. Nous le voyons aussi sous d'autres yeux. Quand vous voyez les pays comme la France, comme les autorités ont opté pour l'ouverture, et vous voyez que les Français acceptent facilement d'autres personnes vivre chez eux. Mais là où on n'a pas opté pour le futur, il y a un problème d'intégration, un problème de ces gens-là, et on n'accepte pas d'autres peuples. Donc moi je pense que le problème est vraiment politique, et ce sont les politiques qui doivent trouver des solutions de ce côté-là. Mmh.
Mais il y a des gens qui ont insisté, par exemple Félicien, qui estiment qu'il faut quand même arriver à un certain moment à créer un dialogue au niveau des communautés, des discussions pour arriver à l'intégration, à la cohabitation. Alors pensez-vous que ça tout doit passer seulement par les politiques, ou il y a aussi le rôle des leaders d'opinion qui ne sont pas des politiques dans toutes les communautés, que ce soit les questions religieuses, que ce soit les organisations de la société civile, leur part de responsabilité dans la culture de cette unité phénicien.
Oui, mais ça, on ne peut pas exclure. Depuis nos ancêtres, nous avons vécu toujours de cette façon-là. Quand il y a des problèmes entre villages ou entre familles dans le village, on se mettait autour d'une table, il y avait l'arbre à palabre, et on réconciliait les gens, et puis ça passait, et les gens continuaient à vivre. Mais ici, moi, je parle des origines. Les origines, c'est souvent beaucoup plus les divisions au niveau des hommes politiques, qui, pour leurs intérêts personnels, veulent manipuler la population. C'est ça que je dis.
Mm-hmm. Ben, merci beaucoup, Félicien. Vous estimez que dans l'essence même, hein, les problèmes de conflits, des discussions, c'est réglé sous l'arbre à palabre, mais vous avez pu charger les hommes politiques. Vous estimez que beaucoup des conflits que nous enregistrons, des méfiances entre les communautés, viennent souvent de la manipulation de responsables politiques, et c'est à ce niveau-là qu'il faudrait travailler. Merci beaucoup, Félicien de Kinshasa. Bissimo, vous êtes à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Bonjour, Bissimo, et bienvenue.
Bonjour, Pierre, c'est à moi, Bissimo. Je salue tous les auditeurs de la radio au café qui nous suivent à ce moment. Fait, par rapport au sujet du jour, vous devez comprendre avec tout le monde qui nous suit que depuis que le monde est monde, c'est-à-dire depuis que le monde existe, le conflit s'installe, où le conflit s'est installé. Et cela s'observe quand Dieu a différemment créé les gens. Et quand je dis que Dieu a différemment créé les gens, l'homme doit comprendre qu'il y a les intelligents, il y a les moins intelligents, il y a les courts, il y a les élancés, il y a les minces, il y a les gros, il y a les pauvres, il y a les riches. Il y a même la différence qui s'observe au niveau de la couleur. Et toutes ces différences ne sont pas accueillies par tous de la même manière.
Mm-hmm.
Voilà ce qui est terreau à la base des conflits qui divise les individus, les organisations, les communautés, les pays, voire même les églises.
Mm-hmm.
Chose grave, quand il y a conflit, des violences avec des conséquences néfastes ne cessent de s'enregistrer. Et là, je peux donner comme exemple des situations méchantes, on a des têtes même en vie humaine. Comme tel est le cas aujourd'hui à Lubero. Les cas sont en train de déplorer aujourd'hui entre les communautés Nandé et les communautés Hutu. L'important, quand il y a problème ou quand il y a conflit, les gens doivent d'abord comprendre que le conflit a toujours été naturel, le conflit a toujours été normal, le conflit a toujours été net. Mais ce qui importe beaucoup dans tout ça, c'est de chercher à comprendre les sujets du conflit. Et quand je parle des sujets du conflit, là, on voit directement les causes. Pour qu'on sache réellement pourquoi il y a ce conflit. Et là, les expérimentés, les experts dans les domaines, peuvent maintenant se mettre sur le travail, au travail directement, mm-hmm. et commencer à chercher le bas de moyens pour pouvoir décanter, pour pouvoir parvenir à décanter le conflit qui divise les communautés. S'agissant du conflit qui est lancé de discussion aujourd'hui à Lubero entre toutes les Nandes, moi je valide la proposition qui a été donnée par le CEPADO, qui a proposé qu'il serait mieux qu'il y ait dialogue social. Mais avant qu'on parle de ce dialogue social, moi je pense, même si on a parlé du dialogue social, je suis de ceux qui pensent que le dialogue a toujours été le moyen le plus facile, le moins coûteux pour résoudre les conflits. Mm-hmm. Mais aussi parce que le dialogue, quand on a résolu un conflit, à travers un dialogue, vous allez voir et vous allez comprendre avec tout le monde qu'il n'y a pas de perdants ni de gagnants. Chacun trouve sa part et chacun accepte que vraiment la solution qui a été donnée concerne tout le monde et la solution est satisfaisante. Mais pour ce qui est du cas de Lubero, c'est là que je vais rejoindre le premier intervenant. Moi, je doute que ce dialogue ne va pas donner un résultat escompté, parce que vous allez comprendre que ceux qui se battent, ceux qui s'entretiennent sur le terrain, ce ne sont que des éléments qui se font voir, mais il y a des acteurs invisibles qui sont cachés. Et ces acteurs invisibles sont à Goma, ils sont à Kinshasa, ils sont même dans nos pays voisins, et ils militent pour leurs intérêts égoïstes, voire politiques.
Mais c'est à ce niveau-là, quand vous avez rejoint Félicien Bissimo, vous estimez que le dialogue social reste un moyen, le moins coûteux d'ailleurs, pour résoudre un conflit aujourd'hui. Et que ce soit à Lubero, que ce soit dans les Tanganyika, que ce soit à l'Équateur, à Kinshasa, au Kassai, il faut un dialogue social. De toute leur façon, les conflits sont inhérents à la vie de l'homme, mais les solutions deviennent difficiles et compliquées quand il y a des manipulations invisibles, par exemple, qui ne permettent pas assez que les gens se mettent ensemble pour discuter. Et là, vous avez rejoint carrément Félicien de Kinshasa qui a dit tout à l'heure que la plupart des conflits que nous enregistrons dans nos milieux sont souvent manipulés, que ce soit par les politiques, que ce soit par ceux qui ont de moyens, mais qui malheureusement ont des conséquences néfastes sur le terrain auprès des populations. Merci beaucoup, Bissimoa. Nous avons déjà notre invité en ligne, mais en attendant, il y a Franck qui est à Kinshasa, qui vient de s'éteindre à nous. Franck, bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour aux amis qui se sont déjà prononcés. Bonjour à l'invité, à tout le monde qui va se prononcer.
Mais vous avez suivi tout à l'heure, ici, moi, il a dit, non, mais quand on parle de la résolution des conflits, la prévention, il faut d'abord se référer aux experts. Ce sont les experts qui doivent déterminer les causes. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec le docteur Kibi Sonaopes, qui est avec nous sur les antennes, professeur en résolution des conflits. Parce qu'il a fait allusion aux experts qui doivent analyser les causes des conflits dans le milieu, dans les pays, pour pouvoir proposer des pistes et des solutions. Alors, quelle doit être en principe une démarche plus efficace qui peut permettre à ce que les gens vivent ensemble dans un espace donné, Franck?
Merci beaucoup pour la parole, M. Pierrot. C'est une thématique très, très riche. On peut développer des thèses de doctorat parce que on ne peut pas parler de conflits intercommunautaires en quelques minutes seulement. Par rapport à ce qui venait déjà d'être dit, je trouve qu'on doit d'abord commencer par définir les concepts conflits. Et ensuite, on doit passer aux circonstances d'émergence d'un conflit, puis à la gestion de nos différences comme conflits, puis arriver à cibler les milieux de vie pour gérer ce genre de conflits. Par rapport à ce que je venais d'énumérer, moi je trouve que par définition, un conflit, c'est un état d'être, un état d'esprit, psychologique, sociologique, et en langage, en jargon communautaire, on dirait que c'est une divergence de vue non dépassée, non aplanie. Alors, s'il faut passer aux circonstances d'émergence d'un conflit, je dirais que si un conflit surgit quand deux personnes, quand deux individus ou deux groupes de personnes n'arrivent pas à dépasser une divergence de vue qui les oppose, quand aucune d'entre les deux personnes ou aucun groupe de ces deux n'arrive à se dépasser pour n'exiger avant tout que la paix, la cohésion et l'entente. Et le conflit intercommunautaire dont il est question aujourd'hui n'intervient aussi que quand une divergence de vue impliquant certaines gammes d'intérêts entre deux groupes ethniques n'est pas dépassée pour n'exiger que la paix. Et quand de telles divergences de vue sont radicalisées à base de certaines manipulations parfois seulement politiciennes, on va voir qu'il y a des groupes ethniques qui restent farouchement opposés parce qu'on n'arrive pas à faire un discernement assez simple pour voir qu'est-ce qui me revient, qu'est-ce qui revient à l'autre et comment je peux gérer ceci pour ne pas tomber en contradiction éternelle avec l'autre. Et cela devient plus difficile à gérer quand certaines mains noires à base de certaines visées, soit mercantilistes ou politiciennes, qui décident comme par rapport à leurs intérêts. Alors, comme milieu de gestion de conflits, je trouve qu'il y a d'abord la famille, il y a la société, il y a les écoles et les milieux de culte, et aussi les milieux professionnels. Pour ne pas monopoliser la parole, on doit apprendre à aimer tout le monde, apprendre à accepter nos différences interculturelles, promouvoir la tolérance mutuelle intégrale en vue d'une pluralité d'opinions. L'éducation citoyenne à offrir doit être complète et intégrale, car certaines antivaleurs qui détruisent nos sociétés de vie, certaines antivaleurs dont souffrent nos sociétés de vie, ne manquent que de ce genre de déficit. Partout dans nos milieux de vie, l'on doit militer plus pour la pluralité, la diversité de nos différences interculturelles. Et moi, je trouve que nos différences interculturelles devaient aussi parfois être vues comme épicentres d'enrichissement et non seulement comme forme de discorde. Mais seulement dans un pays où le système de scolarité n'offre pas des atouts équilibrés par rapport à tout le monde. Il y a des citoyens qui souffrent d'un esprit critique, qui ne sont pas en mesure de faire un discernement équilibré afin d'établir des jugements vraiment cohérents. Alors, quand maintenant on a des leaders d'opinion, quand maintenant on a des politiciens, quand maintenant on a des gens qui veulent travailler que par rapport à eux-mêmes, ils vont se servir justement de cette majorité populaire pour leurs propres intérêts. C'est à ce niveau-là que j'ai revu les deux premiers intervenants qui ont directement ciblé ces gens qui ne font que tirer des ficelles pour développer l'existence des conflits intercommunautaires. Mais moi, je trouve que c'est tout le monde qui doit s'interpeller, tout le monde doit se remettre en question, et déjà au niveau de nos familles, On doit apprendre aux enfants d'accepter la différence. Chaque enfant peut être différent de l'autre, chaque enfant est différent de l'autre, mais cette différence ne doit pas être vue comme un seul point de discorde, mais ça doit être vu comme enrichissement. Merci. Parce que si je me fais différent par rapport à mon ami, c'est alors que je peux aussi m'ouvrir à lui afin que je puisse me compléter. Mais si je vois en lui seulement comme un ennemi, un opposant, c'est alors qu'intervient le blocage à base desquels proviennent tous ces conflits dont on est en train de parler.
Merci.
Voilà un peu de moi ce que je pouvais dire.
Merci beaucoup, Franck, c'est vraiment important. 081-890-63-15 pour intervenir en direct.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Kouté sur Radio Capi.
Professeur Kibiso Anopes, vous êtes avec nous dans cette émission. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierrot, et merci d'avoir pensé à moi. Et c'est un grand honneur ce qui me fait, et Radio Capi me fait. Je salue tous les auditeurs de Radio Capi à travers le pays.
Voilà, vous avez suivi les trois premiers intervenants. Il y a quand même Bissimwa de Bukavu qui a soulevé quelque chose d'important. Il a dit il faut recourir aux experts pour pouvoir analyser les causes. Franck le disait tout à l'heure, des conflits et comment arriver à trouver des mécanismes pour prévenir, gérer ces conflits. Effectivement, les experts, c'est vous. Vous êtes docteur en gestion, résolution, analyse et résolution des conflits. On sait que les conflits au niveau de nos communautés, que ce soit au nord Kivu, sud Kivu, Katanga, le Kassai, l'Équateur, le Bas-Congo, partout ailleurs, n'ont pas effectivement les mêmes causes, n'ont pas les mêmes liens. Mais dans la démarche en allant des causes, quels sont les éléments clés qui peuvent être considérés dans notre communauté, dans notre pays, qui, des fois, dans notre histoire, ont pu être à la base de certaines méfiances et cohabitations difficiles entre communautés?
Oui, merci beaucoup pour la question. Je voudrais d'abord féliciter tous ceux que j'ai entendus jusque-là. Et ils abordent bien la question. Et les conflits, si vous ne voulez pas l'entretenir, avant de tenter de donner des solutions, il faut d'abord l'analyser. C'est-à-dire le décomposer en ses différents éléments, en différents facteurs et toutes les forces qui jouent dans ce conflit-là. Si vous ne le décomposez pas en petits éléments, en toutes les forces, vous n'identifiez pas toutes ces forces-là, vous allez commencer à prescrire des solutions à la manière de ce médecin qui serait en train de mettre de la mercurochrome sur une plaie, sur la croûte de la plaie, et la plaie reste là-dedans et va continuer à ronger. Alors, donc, avant de tenter de donner des solutions à un conflit, prescrire des solutions, il faut l'analyser profondément. En l'analysant, maintenant vous allez vous attaquer à chaque point selon l'analyse que vous avez faite. Et lorsque vous avez chaque point, vous pouvez maintenant commencer à reconnecter le morceau et vous commencez à prescrire des solutions. C'est pour cela que j'ai aimé les intervenants qui venaient de parler parce que ils sont conscients de cela. Et l'autre aspect, c'est le fait que j'ai entendu parler de main noire. Main noire. Mais si vous analysez profondément le conflit, vous connaîtrez où se trouvent ces mains noires-là, ou s'ils ne sont pas là, où ils sont là. Et si elles sont là, eh bien, vous allez en tenir compte dans la prescription des solutions que vous allez donner. Et dans le cas de nos conflits au Congo, notre contexte historique est très important. Très important. Parce que c'est dans les conflits qui se passent dans le Nord Kivu ou dans le Bas-Congo ou à l'Équateur ou au Katanga, la plupart des fois, ce sont des éléments historiques que nous ne savons pas gérer à cause de notre culture orale et à cause du fait que nous lisons très peu les éléments de notre histoire et notre histoire n'est pas enseignée suffisamment depuis l'école primaire. Nous passons beaucoup de temps à enseigner des choses qui nous mettent comme des admirateurs de l'Europe, de l'Occident en général, et cela fait que bon, nous ne connaissons pas très bien notre histoire, et à cause de cela, ce contexte historique nous fait défaut dans l'analyse et dans de nos conflits et dans l'approche que nous devons adopter pour résoudre nos conflits. Donc, c'est ce que je peux dire au début, mais je dois avouer que les intervenants antérieurs sont sur le bon chemin dans leur manière d'approcher le problème.
Mmh. Mais vous avez dit, vous avez évoqué le contexte historique qui accompagne les conflits. Est-ce qu'on peut dire que, comme le disait Franck tout à l'heure, qu'il y a la difficile acceptation de l'autre, la différence, la difficile cohabitation. Est-ce qu'on peut dire que à un certain moment, il y a eu une faiblesse dans notre communauté, dans la compréhension même de nos identités à travers les provinces, que ce soit à n'importe quel milieu où un conflit a pu survenir dans notre histoire, même les conflits récents au Nord Kivu, même les conflits encore plus récents entre les Pygmées et les Luba dans les Tanganyika.
Oui, le contexte comporte aussi l'élément important, c'est la nature de la personne ou des personnes qui sont actrices dans le conflit.
Mmh.
D'abord, il y a quelque chose d'amour propre. L'amour propre qui est le point central de chaque personne, chaque individu. Et maintenant, quand vous étendez cet amour propre à une communauté, ça devient de l'ethno. Hein, on peut dire ethnocentrisme, on peut dire ethnisme, on peut dire tribalisme, on peut dire donc. Et quand vous étendez cela au niveau d'une nation, ça devient du nationalisme, de l'ethnonationalisme, et ces éléments-là de isme constituent un peu du carburant, de l'essence, qui viennent compliquer parfois la résolution d'un conflit. C'est-à-dire la nature et l'identité des personnes ou des communautés qui se trouvent impliquées dans le conflit. Et comme je l'ai dit, si au niveau de l'analyse du conflit, vous avez identifié ces genres d'éléments, vous savez que je me trouve dans une communauté où il y a une qui a telle attitude en général vis-à-vis du monde extérieur et vice-versa. Vous intégrerez cet élément-là dans votre démarche dans la résolution du conflit.
Mmh.
Et si nous prenons maintenant le Congo en général et le Nord et le Sud Kivu en particulier, vous pouvez regarder le tempérament des gens quand ils parlent. Et ce tempérament-là est essentiellement un tempérament plus ou moins arrogant. Je m'excuse de le dire parce que c'est comme ça. Lorsque les gens discutent, tous les débats que vous pouvez suivre à travers la radio, la télévision, vous allez voir que les gens sont tellement imbus et très convaincus de ce qu'ils ont que leur oreille n'est plus attentive à ce que les autres disent. Conséquence, nous préférons souvent le débat au dialogue. Or, le débat et le dialogue ont ceci de différent, c'est que dans le débat, chacun cherche à vaincre l'autre par son argument, même pas sa menace. Alors que dans le dialogue, vous cherchez des solutions aux problèmes qui sont les vôtres et vous êtes obligé d'écouter les autres et on s'exerce pour faire ça. Si on ne s'exerce pas, on va rester toujours en conflit permanence, on va avoir une nature qui va être toujours conflictuelle, qui remet les autres en question sans se remettre soi-même en question.
Mmh.
Et là, nos écoles aussi ne nous aident pas parce que la résolution des conflits ne fait pas partie de notre de nos formations, ça ne fait pas partie de nos études. Nous sommes vous voyez, nous sommes en guerre depuis 1996, mais on peut dire que depuis 1990, mais il n'y a pas une filière d'études de paix et conflits installée dans nos universités officielles. Alors que il nous faut absolument cultiver ces connaissances-là,
merci,
ces pratiques-là, les ancrer dans nos enfants, de sorte que nos adultes de demain soient des personnes sensibles aux intérêts des autres, pas seulement
merci,
à leurs intérêts,
mm-hmm,
soit exercent leur écoute des autres, parce que l'écoute active des autres constitue un élément important dans le dialogue pour la recherche de solutions.
Des solutions au conflit, voilà. Rapidement, avant d'écouter encore d'autres auditeurs, oui.
Nos publicités à la télévision, à la radio, les publicités surtout de Sci-Fi ou de l'autre, la Diane Dimossi, vous sentez que les personnes sont, les enfants regardent tous les jours comment crier sur l'autre. Comment crier sur l'autre. La manière de nous comporter vis-à-vis des uns des autres, c'est toujours une manière agressive. Et cette agressivité-là, nous la cultivons à travers les images que nous regardons tous les jours.
Mm-hmm.
Nous, nos enfants croient que le comportement que Sai adopte, bien que Yann Dimonsi a dit adopte, le langage qu'il adopte, c'est un langage normal. Alors que c'est de l'agressivité, et on devrait faire un effort de réduire
les rôles. Voilà, et ça, ça même, c'est le rôle même de médias dans cette question des résolutions des conflits. On va revenir à vous, professeur, avant. On a Zouzi qui nous appelle de Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central. Victor Zouzi, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup pour l'occasion que vous m'accordez.
Voilà, vous avez suivi notre invité, comment il a pu insister sur l'analyse, que ce soit. Mais quand on regarde des fois la manière dont nous avons tendance à gérer les conflits qui surviennent entre des communautés, la cohabitation difficile, on a tendance à remettre tout sur les leaders politiques. Vous voyez, il y a un conflit quelque part, ce sont les leaders politiques qui descendent pour trouver des solutions. Mais dans la plupart des cas, les communautés elles-mêmes qui sont concernées ne sont pas assez associées dans la définition des solutions aux problèmes qui les concernent. Quel est votre point de vue, Victor Zouzi?
Oui, merci beaucoup. Bon, je pense qu'il y a un problème dans notre pays, c'est que l'État est trop faible. L'État est trop faible et il y a l'impunité aussi, qui fait que nous avons toujours des problèmes parce que le seigneur de guerre, on sait que lorsqu'on établit un conflit ou bien on provoque un conflit, on devient un maître de richesse dans le coin. Et quand vous regardez souvent nos conflits, c'est là où il y a des richesses. Ça peut être des minerais, ça peut être un étang, le cas des Nilés, et ça peut être la forêt quand on parle de Pygmées et d'autres ailleurs. Donc c'est ça, l'État est trop faible et très souvent quand l'État doit résoudre un conflit chez nous, c'est vraiment à la légère et à la fin, on n'a pas résolu le problème et le conflit ne cesse de surgir. Mmh. Donc, on sait que lorsqu'on entretient ou une rébellion ou un conflit, on est seigneur, eh bien, toutes les ressources devraient revenir au maître. Donc ça, c'est un problème. Il faut réellement qu'on sanctionne ceux qui sont à la base, qui perpétuent les conflits. Il faudrait qu'on les sanctionne sérieusement. Ah, excusez-moi, j'ai un coq qui dérange toujours. Alors, l'autre problème que nous avons aussi chez nous, dans notre pays, vous avez parlé des experts tout à l'heure, mais je ne sais pas de quelle expertise. Mais le premier expert, c'est celui-là qui est en train de vivre le conflit.
Mm-hmm.
Ce sont là, ce sont ceux qui connaissent le conflit. Parce que si on parle de l'expertise telle qu'on est en train d'en parler maintenant, et c'est comme ça que très souvent on est induit en erreur. On va résoudre un problème parce que l'expertise, on vient de Londres, on vient je ne sais pas d'où. Mais non, moi je pense que le premier expert, le connaisseur du conflit, même la main noire dont on peut parler invisible, s'il y a main noire, mais qui connaissent? Mais ce sont eux qui sont sur le terrain, qui savent que c'est tel politicien qui donne de l'argent pour manipuler la population ou bien pour être maître d'un puits. Donc l'expertise, moi je pense qu'il ne faudrait pas négliger ceux qui font...
concerné directement par les conflits, oui. Merci beaucoup. Oui, terminé par là, oui.
La question que nous nous posons, pourquoi les conflits à l'Est finissent toujours par prendre les armes? Nous avons des conflits dans le Bas-Congo, mais on ne prend pas des armes. Pourquoi cette culture? Il faudrait qu'on se pose cette question-là. Moi, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Pourquoi toujours, ça finit toujours par des armes? Donc voilà la grande question que nous nous posons parfois dans le Congo central.
Et ça, c'est important. Mais pour répondre à cette question, c'est ce qu'un autre invité disait tout à l'heure, le professeur Kibiswa, a insisté sur le fait qu'il faut faire l'analyse du conflit. Et vous, vous avez dit, oui, faire l'analyse du conflit, mais associer ceux qui connaissent les conflits, parce que ce sont les premiers experts. Et ils peuvent même vous dire, s'il y a des manipulations, ils peuvent vous dire, voilà, c'est tel autre qui manipule. Mais votre inquiétude, c'est de savoir, mais pourquoi les conflits, que ce soit autour des ressources naturelles, parce que la plupart des conflits, vous l'avez dit, c'est autour des ressources naturelles, et par exemple, finissent par la violence avec les armes. C'est ce que disait Bissi moi tout à l'heure. Mais vous l'avez dit, quand on a tendance à recourir aux armes, c'est parce qu'on sait qu'on vient, on veut devenir maître de l'exploitation des ressources, mais qui malheureusement s'engendre la violence avec autant de malheurs. Merci beaucoup, Victor Nzouzi de Mbanzangungu. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Bonjour maître, et bienvenue dans cet échange.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, maître.
Par rapport à la thématique, Monsieur Pierrot, les causes sont les gens. Moi, j'aimerais surtout tabler sur les causes de ce conflit qui est en train de perdurer sur le territoire de la République démocratique du Congo. Moi, je dirais que les causes sont purement politiciennes. Pourquoi je dis cela, Monsieur Pierrot? Par rapport d'abord à l'opération de démembrement des provinces. Il y a plusieurs histoires qui n'étaient pas prises en compte par rapport aux origines de la population. Je peux illustrer par un cas concret, par exemple le cas de Colombie. Il y a un conflit qui génère jusqu'à présent entre les Sanga et les Rumi. Pour les Sanga, ils veulent que Colombie soit attachée au territoire de Rubundi. Pour les Rumi, ils ne veulent pas entendre de cette histoire. Donc c'est Colombie qui se restait du côté du Lualaba. Il y a même des échafaudés à un moment donné, mais nous ne savons pas où nous ne savons pas à quel niveau se situe maintenant les solutions par rapport à ceux-là qui nous gouvernent. Pour ne pas me limiter seulement à ce cas, je dirais aussi le cas de Nandé, du côté de Kivu là-bas. Alors, nos gouvernements actuels veulent diviser pour mieux régner. Pourquoi je dis cela? Je peux essayer cela par le cas de Mobutu. Notre fait Mobutu, quand bien même il a été dictateur, du côté de l'unité nationale, Mobutu avait, moi je pouvais même le coller de prix par rapport à l'unité nationale. Tout ce qu'aujourd'hui nous assistons dans des provinces, on nous impose des gouverneurs toujours originaires de ces provinces-là. Nulle part dans les textes fondamentaux, il est prévu qu'un gouverneur va être toujours originaire de cette province. Or, Mobutu essaie un peu de mettre le gouverneur de toute origine confondue dans n'importe quelle province pour créer cette unité. Si nous vont du côté de l'armée, côté de l'armée aussi, on nous amène toujours des originaires. Cela divise d'abord la population. Si nous attirons maintenant au niveau des fonctionnaires de l'État, c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez les anciens fonctionnaires de l'État parler, manipuler toutes les quatre langues nationales. Ils ont travaillé à travers toute la République. Même au niveau des fonctionnaires, c'est toujours les originaires des provinces. Or, nulle part dans la Constitution, il est dit que ceux-là qui doivent être responsables de tel ou tel service doivent être originaires. Alors, à ce moment-là, nous reculons de loin par rapport à l'unité nationale qui a été instaurée par le régime de feu Mobutu. Mais néanmoins, Mobutu avait commis une erreur par rapport au réformat des Kassaïens. Il avait divisé les Kassaïens et les Katangais pour nous régner. Et maintenant, à côté du chef de l'État Kabila, les caciques-là du MPR sont dans son précaré. Ils veulent maintenant revenir à ce système-là pour qu'il règne davantage. Or, cela cause beaucoup de préjudices au niveau même de la population. Revenons maintenant au cas encore de démembrement. Prenons le cas d'Ngandajika. Les gens d'Ngandajika n'acceptent pas de se retrouver du côté de l'Omami. Or, pour eux, ils ont même établi une pétition qu'ils ont déposée auprès du ministère de l'Intérieur pour que le ministère de l'Intérieur puisse résoudre ce problème en les rattachant du côté du Kassaï oriental. Alors, quand on parle d'experts, puisque j'ai entendu ceux qui ont procédé parler des experts, quand on parle des experts, est-ce qu'avant de procéder à ce démembrement, il n'y avait pas d'experts? Moi, j'estime qu'il y avait d'experts. Mais néanmoins, le gouvernement actuel ne prend pas en compte les désidératas de la population. Et si nous continuons comme ça, Oui. Si il y a les comme ça, ça va embraser toute la République démocratique du Congo et ça sera très difficile de trouver des solutions. Tout ce que moi je peux demander à nos dirigeants, et ils sont à la base de tous ces problèmes, ils doivent essayer un peu de bien réfléchir, de bien cogiter pour essayer de ramener la paix au sein de la population. Si vous voyez même dans les parages du chef de l'État, il y a toujours les gens de l'origine de sa province. C'est ce qui tue ce pays. C'est ce qui est à la base même de ces disputes, de ces longues disputes qui perdurent à travers la République démocratique du Congo. Du côté des Pygmées, entre les Pygmées et le Bantou, du côté de Madono, il y a même les dossiers qui sont en cours. Mais le gouvernement ne sait pas mettre à la disposition des avocats qui s'occupent de ces dossiers pour aboutir. Ces avocats qui s'occupent de ces dossiers doivent voyager, doivent procéder par des descentes au niveau de Manono pour s'enquérir de réalité au niveau de Manono. C'est sur base de ces réalités qu'on peut rendre un jugement.
Dans la globalité, MF Sonville, vous avez, je prends deux volets de votre intervention, le problème de découpage territorial. Aujourd'hui, avec toute la méfiance, on voit ceux qui sont à Colusi, une partie dit, mais bon, écoutez, nous, on ne peut pas être rattachés à là-bas, Nadajika ne veut pas aller à Olomami, les autres à Olomami, les autres villes. Voilà un peu toutes ces questions. Ça dit, vous auriez souhaité que le pouvoir public ait fait recours aux experts pour savoir que si jamais nous établissons ces limites, on l'a vu avec la création de nouvelles villes, le décret du Premier ministre Mouzito repris par le Premier ministre Matata, on a vu comment il y a eu beaucoup de difficultés, de nouvelles communes qui ont été créées, de villages qui ont refusé carrément de pouvoir appartenir à tel autre village parce que nous serons sous la domination de tel chef coutumier. Et toutes ces questions doivent être prises en considération en ce qui concerne les découpages. Mais la question majeure sur les modes électoraux aujourd'hui, vous l'avez dit, nulle part la Constitution dit pour être élu gouverneur, il faut être originaire de sa province. On le voit, mais sur toutes ces difficultés aujourd'hui, il y a quand même des exceptions. On a vu aujourd'hui Kondévile Kiganda est élu à Goma, alors qu'il est originaire du Bas-Congo. Vous auriez souhaité voir des tels cas se répéter encore à travers le pays. On a vu l'ancien député Takizala de Bandundu élu à Lubumbashi. Nulle part la Constitution dit qu'on doit être élu gouverneur dans sa province. C'est cette question des élections ethnico, comme un auditeur le disait dans nos anciennes émissions ethnico-tribales, qui fait aujourd'hui que ça accentue encore la division entre les personnes. Mais il faut qu'au niveau du pouvoir politique, on puisse se mettre au travail pour rapprocher les communautés et résoudre toutes ces questions. Merci beaucoup, Maître Sonville. Maître Michel, vous êtes à Kananga, au Kasaï Central. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, cher Lungembo. Bonjour à la Radio Capi et tous les auditeurs de la Radio Capi.
Donc, on vous écoute, Maître. Comment arriver alors à créer ces dialogues permanents entre la communauté dans nos provinces et permettre à ce que les gens cohabitent et vivent d'une manière pacifique?
Oui, cher Lungembo, avant d'aborder d'abord la thématique du jour, je voudrais d'abord vous faire cette prière pour vous faire comprendre que vous donnez d'abord les causes des conflits ethniques et tribaux que nous avons aujourd'hui, les dialogues, comment ça peut être réalisable dans nos sociétés. Moi, je voudrais vous dire à mon avis que c'est à la base des conflits ethniques que nous sommes en train de couvrir.
Si tu peux te déplacer un tout petit peu, Maître Michel, parce que là, on a des petits soucis, hein. Avec ta ligne, tu es en train de donner des causes de conflits, mais bon, voilà que la qualité de l'intervention se détériore. Mais en attendant, et tu te déplaces, nous avons des messages comme Guillaume Kaluta, qui nous a écrit des Lubumbashi. Lui, il estime que le problème qui se passe entre les deux communautés, la solution, c'est l'État qui doit, en principe, descendre. stands pour sensibiliser, mais en impliquant bien sûr les communautés locales. Nous avons Richard Bagouma qui nous a écrit des Bukavu. Il dit ceci: les dialogues n'est pas un moyen pour pouvoir réconcilier les communautés parce que la population est manipulée souvent par les hommes politiques. Christophe Loatambi des Bukavu, bien sûr, lui estime que les gouvernements devraient traiter toutes les personnes habitant sur son territoire d'une manière égalitaire, que ce soit dans la redistribution des richesses, même dans l'occupation des postes politiques, pour qu'il n'y ait pas de gens qui se sentent marginalisés. Nous revenons à vous, professeur Kibiswa Naupes. Vous avez suivi ce qu'il disait tout à l'heure Victor Zouzi de Manzangungu en disant les premiers experts d'un conflit, c'est celui qui vit et les conflits. Alors, dans cette analyse, pour la proposition des pistes de solutions, quelle est la place des acteurs majeurs qui sont dans les conflits qui s'affrontent aujourd'hui? Parce qu'il disait même que la plupart de ces conflits à l'Est finissent toujours par produire la violence avec les armes. Mais alors, quelle est la part de l'acteur, de celui qui vit les conflits, dans cette analyse que vous avez évoquée tout à l'heure et la définition de mesures à prendre, professeur Kibiswa? Alors, professeur Kibiswa, vous êtes avec nous?
À la personne qui a dit que le dialogue n'est pas une voie de reconsidérer sa position, parce que tout ce qu'on va faire pendant que l'on cherche des solutions à un conflit, on n'ira pas au laboratoire, on ira vers les acteurs du conflit. Et on doit obtenir que les acteurs du conflit se parlent, et que cet échange là c'est ce qui s'appelle dialogue. Et le dialogue, c'est la recherche de solutions. Ce n'est pas la tentative de l'un pour vaincre l'autre par l'argument, ou bien par la menace ou par la ruse, mais ça doit être un dialogue ouvert, civilisé. Alors, il y a un intervenant qui a parlé de personnes qui sont en conflit, comme les premiers médecins, si on peut exprimer dans ce sens-là,
oui,
pour soigner leur conflit. C'est exact. Parce que c'est eux d'abord. C'est d'abord les acteurs de la communauté, les individus, comme unité statistique, qui sont soit eux-mêmes en train d'agir par eux, par elles-mêmes, ou par personnes interposées. Et il faut les identifier. Alors, l'élément de recours aux armes, c'est un élément culturel. Ça fait partie de ce que j'ai dit, ça fait partie de la nature des personnes avec lesquelles vous êtes en conflit. Si vous avez déjà identifié au cours de l'analyse qu'il y a une communauté qui a tendance à recourir aux armes, même pour une petite chose, vous devez donc intégrer cet élément-là dans la démarche. Et au Congo, on connaît plus ou moins les endroits où, pour un petit conflit, les personnes recourent aux armes. Il faut donc tenir compte de cela. Alors, d'une manière ou d'une autre, si nous voulons arriver aux solutions, il faut que d'abord il y ait la volonté des personnes, des communautés. Mais la volonté dépend également de la nature de la personne.
Oui.
La nature des personnes. Il y a des personnes qui résistent toujours, quelle que soit la situation, qui veulent toujours que ce soit leur point de vue qui prenne le dessus. Et ils peuvent utiliser n'importe quelle technique pour cela. Ça peut être la rue, ça peut être la force, ça peut être l'argent, ça peut être... Il y a plusieurs moyens qu'ils utilisent. Donc, vous ne pouvez pas, à moins de venir aussi avec les armes pour tenter d'imposer une solution, il faut toujours penser à faire converser les personnes, et ça fait partie de la culture africaine. Hein, on parle de l'arbre à palabre, même si je peux vous dire que notre arbre à palabre est plus ou moins, est devenu moins efficace au regard de l'ampleur des problèmes qui sont les nôtres dans la vie moderne. Mais la démarche globale reste la même, on doit parler. Les gens doivent se parler, doivent négocier la paix, doivent négocier les intérêts matériels ou moraux qui les opposent. Et il y a aussi lieu de souligner que Mais les conflits des valeurs, les conflits identitaires, ce sont des conflits qui sont difficiles à résoudre.
Mmh.
Dans n'importe quelle communauté, dans n'importe quelle société, lorsque dans ce conflit, dans un conflit, interviennent les éléments identitaires en disant moi je suis par exemple moi je suis de telle tribu, ma tribu doit toujours avoir telle chose que l'autre tribu ne, auquel l'autre à laquelle l'autre tribu ne peut pas prétendre. Vous voyez que dans ce cas-là, il va falloir beaucoup de temps pour que quelqu'un qui a cette concession là-bas se convaincre de faire des concessions.
Voilà, professeur.
Or, les concessions constituent des éléments très importants dans chaque résolution, gestion ou transformation de conflits.
Professeur, on va revenir à vous. On va écouter Chancelin qui est ici à Kinshasa avec nous, mais nous avons reçu ces messages tout à l'heure sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Frédéric Tuto dit ceci: tout dépend de l'éducation des bases. Combien de fois parlez-vous à vos enfants d'éviter les conflits sociaux ou les préjugés? L'histoire aussi congolaise avec ses voisins qui créent chaque fois des troubles afin que la population dise que la chèvre met bas. Voilà, je n'ai pas compris. Mais il a beaucoup insisté sur les dialogues au niveau de la famille, mais aussi sur les relations transfrontalières entre le même peuple qui vivent de part et d'autre des frontières. Chancelin, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, M. Pierrot, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Parce qu'on tend déjà vers la fin de l'émission. En une minute, votre contribution pour cette question de la cohabitation pacifique entre les communautés dans notre pays.
Oui, M. Pierrot, moi je pense que si vous comprenez bien que tous les auditeurs qui parlent, donc parlent des causes. Moi, je pense qu'il faut toujours chercher les causes qui ont produit ces effets-là. Vous savez, en philosophie, on dit, et on parle des relations des causes à effet. C'est-à-dire que non, il faut chercher les causes causées de la cause causante. On ne peut pas s'appliquer aux effets sans pourtant savoir les causes qui ont produit ces effets. C'est là. Et puis, en plus, vous entendez aussi que tout le monde peut se parler des mains noires qui sont derrière tous ces conflits-là. Je pense que Maître Sonville, vous, monsieur, a essayé de parler de ça. Moi, je pense que tous ces conflits-là sont beaucoup plus d'origine, je crois, du leadership. On cherche les leaders. C'est pas vrai qu'il y a une vie ici. Maintenant, là, on cherche qui peut s'imposer dans ces coins du pays. Et c'est ça qui provoque tous ces conflits-là.
Merci.
Alors, pour arriver à ça, à résoudre tous ces problèmes-là. Vous avez donné l'exemple de l'honorable école des Villadicanda. C'est ça, les découpages va provoquer de plus en plus des conflits. En ce sens, et le tribalisme va prendre de l'ampleur dans notre pays. Il faut peut-être penser aussi à ça. Et que les autorités aussi pensent, à mon humble avis, à savoir comment, par exemple, même bientôt, là, il y aura les élections du gouverneur, qu'on fasse les échanges, là, comme le président Mobutu a fait. Tu vas être élu à Ouagadougou et consort. Je pense qu'à ce moment-là, on éviterait tous ces genres de conflits. Si, par exemple, quelqu'un est de Ouvira là-bas, si on envoie un monsieur de Bandundu à Ouvira, il y aura même les grands tribus qui sont là. Ne lui ferons pas la guerre parce qu'il n'est pas de là et il n'est pas de telle tribu pour favoriser l'autre. Donc, je pense que ça pouvait être
très important.
Mais il faut que j'explique beaucoup plus les causes qui provoquent tous ces effets-là.
Oui, merci beaucoup, Chancelin. Vous avez raison. Le problème de notre système électoral, penser qu'il faut être élu seulement dans ce milieu, il faut être gouverneur chez soi, maire de la ville chez soi. Si on pouvait avoir ces mouvements de responsabilité des populations, ça pouvait facilement mettre fin à ce genre de conflits. Nous avons écouté les derniers auditeurs de cet échange. Pascal, vous êtes à Likassi. En une minute, Pascal, votre point de vue dans ces débats.
Oui, merci beaucoup vraiment de m'avoir associé à ces débats. Concernant la résolution du conflit intercommunautaire dans notre pays, ce qui est plus important, c'est de savoir qu'il y a des conflits latents et des conflits manifestes.
Mm-hmm.
À cet effet, il serait très favorable de ne pas chercher à terminer le conflit, mais à pouvoir les réduire. Et il n'y a que le seul moyen favorable qui est efficace, c'est le dialogue qui pourrait permettre à ce que ce conflit-là soit résolu.
Mm-hmm.
Et il y a encore un point très capital qui doit surgir, c'est du fait qu'après avoir résolu un conflit, il faudrait qu'il y ait un accompagnement d'un expert, ça peut être un sociologue ou un psychologue, ainsi de suite, qui pourrait permettre à ce que les parties prenantes dans la résolution des conflits puissent observer un comportement qui pourra ne pas susciter les mêmes situations qui avaient causé ou faire manifester ces conflits. Voilà un peu les quelques points que je pourrais accompagner pour que nous puissions un peu comprendre que c'est vraiment pertinent de pouvoir chercher des gros moyens pour diminuer ou résoudre les conflits dans notre pays.
Merci beaucoup, Pascal. Vous êtes à l'ICASI. C'est vraiment clair, comme vous l'avez dit. On revient à vous, professeur Kibiswana Opes. Vous avez suivi les uns et les autres. Ce n'est pas la dernière émission. La question est importante. Mais du moins, on a compris que l'ensemble de la population a eu l'idée sur ce qui doit être fait. Et les gens ont le souci de voir chacun contribuer de sa façon à ce que les conflits dans les communautés soient gérés, réduits dans notre pays. Et en une minute aussi, votre conclusion, professeur Kibiswana.
Merci beaucoup. Donc, je le prends sous deux formes. D'abord, la communauté d'adultes en devenir et la communauté d'adultes actuels. Pour la communauté d'adultes en devenir, c'est-à-dire l'enfant, les enfants, et il faut déjà commencer à développer des modules de formation à très bas âge, à partir des familles et dans les écoles, pour permettre aux enfants d'apprendre déjà, d'intégrer dans leur comportement des attitudes positives des uns vis-à-vis des autres et des attitudes, des capacités de gestion, de résolution des conflits, même de leur prévention. Quant à la communauté d'adultes actuelle, nous devons essayer de faire en sorte que ceux qui n'ont pas ces capacités-là puissent aussi les recevoir par des mécanismes qu'on peut utiliser dans les églises où nous fréquentons tous, dans les communautés de base où les gens vivent, dans les écoles et au niveau des intellectuels, développer donc une filière d'études de ces conflits qui va produire des spécialistes qui vont former davantage d'autres,
merci,
qui vont développer les modules de formation pour les adultes en devenir.
Merci. Merci beaucoup, professeur Kibiswana Opes. Vous êtes docteur en analyse et résolution des conflits. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci à tous les auditeurs. Vous avez été nombreux, mais je vois le débat qui continue encore sur la page Facebook de Paroles aux auditeurs. On se retrouve le lundi pour un autre numéro. Merci à Kinti Sidakara qui a mis en œuvre cette émission coordonnée et réalisée par J.R. Lungembo. Je lui fais assurer les contacts avec vos auditeurs au niveau du standard. Et Pierrot et l'ami, je vous la présente sous la supervision de Martin Sebujangwe. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Okapi. Au revoir.